Bonjour, aujourd'hui sur 100 mots de tête, nous recevons Éric Mousseron-Dufort. Les habitués du GEM et de l'atelier radio te connaissent bien. Tu es membre du GEM et même président. Tu es aussi l'un des intervieweurs de 100 mots de tête. Éric, tu es donc des piliers du GEM que tu aimes décrire comme une joyeuse croupe de canards boiteux et que tu mettrais à marcher droit dès lors qu'ils marchent ensemble. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Éric, c'est un personnage presque chauve et résolument barbu, toujours occupé, toujours pressé, mais qui sait prendre son temps, le temps de discuter avec tout le monde au GEM et surtout avec les nouveaux arrivants. Le temps de s'investir et de mener des combats, en particulier pour la reconnaissance du handicap invisible. On se souvient de ta lettre ouverte à Madame la députée, une émission que vous pouvez réécouter sur 100 mots de tête. Le temps aussi d'organiser des régates en solitaire, mais ça on en reparlera sans doute dans une prochaine émission. Bref, on peut ici parler de toutes les activités que tu mènes. Ça nous prendrait trop de temps, justement. Il y a quelques semaines, Éric nous parlait d'un roman de science-fiction autobiographique qu'il est en train d'écrire. Intrigué et curieux, nous lui avons proposé de venir en parler sur 100 mots de tête.
Elio, un ancien homme d'affaires, à un accident grave alors qu'il fait avec des amis une balade à moto en montagne. Traumatisé crânien, après un coma profond de plusieurs jours, on apprend qu'il va conserver de très graves séquelles psychomotrices. Alors qu'il se résigne à accepter cette nouvelle vie aux antipodes de sa vie antérieure, il se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Théum, transférer son esprit dans un corps de substitution, une enveloppe vide, un nouveau corps jeune et athlétique pour continuer sa vie. Comment résister à une telle proposition? Son médecin traitant organise le transfert qui se fait par dématérialisation des axones à la vitesse de la lumière élevée à la puissance 13. Elio redécouvre dans son nouveau corps les joies de la jeunesse, d'une intelligence sans faille, du luxe et des femmes. Mais sa joie est de courte durée. Il découvre un terrible secret sur l'opération de transmutation, un secret pour lequel le groupe Théum est prêt à tuer. Ça, c'est le scénario. Et ce que je vais vous lire, c'est la postface, c'est-à-dire ce que j'ai écrit tout à fait à la fin de ce travail d'écriture et qui est destiné à un éditeur. Je rêve d'être de nouveau dans un corps qui m'obéirait et qui se ferait oublier par moments. Je rêve d'une conversation où je pourrais de nouveau jongler avec plusieurs interlocuteurs. Je rêve de pouvoir conduire à nouveau, de partir à l'aventure sans craindre de me perdre, de flirter avec la vitesse, qu'elle soit d'exécution ou de pensée. Je rêve pourtant de retrouver celui que j'étais avant l'accident pour lui raconter toutes les nouvelles dimensions que m'a ouvertes ma cohabitation avec la lenteur. Là, j'y ai vu la profondeur des choses et des êtres. C'est l'immensité d'une rencontre ou d'un regard qui me permet de graver au plus profond de moi ces moments volés à l'oubli à mesure dont je suis l'otage depuis mon accident. La gravité s'est imposée à moi, alors je m'applique à retrouver un peu de légèreté en m'exerçant à l'autodérision. Force, sagesse et beauté guident mes pas. La force parce qu'elle est la puissance d'action et qu'elle nourrit les passions. La sagesse parce qu'elle permet notamment de comprendre que la lenteur et la vitesse s'épousent pour donner la vie, le mouvement et le repos. La beauté parce qu'elle est synonyme d'idéal. La vie est une symphonie où chacun a le droit et le devoir de créer sa partition. Puisse la mienne égrener au vent sur tous les tons mon amour pour la vie.
Voici les premières lignes de ce roman.
Je veux commencer ce récit par un hymne à la vie, aux couleurs de l'été, cette saison ardente, flamboyante, lumineuse qui précède le rougeoiement de l'automne. J'ai dans la tête des rires qui fusent, des visages aimés, des regards complices, des tapes dans le dos, des blagues, souvent les mêmes, qui marquent le début de la saison des barbecues entre copains. Je sens le goût du sacro-saint apéritif qui ouvre les réjouissances. Je vois encore ces verres levés comme pour remercier le ciel de ces instants volés aux obligations du quotidien.
C'est ainsi que commence Transition, le roman de science-fiction que Éric Mousson-Dufort cherche à publier. Alors Éric, pour commencer, peux-tu nous dire ce qui t'a amené à écrire ce livre ? Et comment tu t'y es pris ?
J'ai décidé d'écrire ce livre au terme d'un atelier que j'ai fait avec mon épouse dans le cadre de son activité de coaching de vie. Elle m'a donné les moyens d'atteindre cet objectif parce que j'ai pris conscience en lisant des bandes dessinées que quand je lis une bande dessinée que j'adore, que je suis rendu à la page 6, je suis obligé de faire machine arrière parce que j'ai oublié ce qu'il y avait écrit sur la page 4 et la page 5. Voilà, donc écrire un roman tout seul, je n'aurais pas pu le faire. J'ai donc recherché une personne, écrivain public, pour contribuer avec moi à l'écriture de ce roman Transmission. J'ai voulu permettre la création, la concrétisation, l'anthropomorphisation, c'est-à-dire la possibilité de donner vie et de vulgariser l'être cérébro-lésé pour contribuer à la reconnaissance de la personne touchée par le handicap invisible comme véritable personne handicapée, sans être obligé pour cela de mener une bataille juridique de plusieurs années, 7 ans de calvaire en ce qui me concerne, qui ne sont pas encore terminés. Ce projet littéraire vise ainsi à donner une visibilité la plus large possible au handicap invisible, à amorcer et à nourrir un débat sur un sujet plutôt absent des débats de société. Or, selon les chiffres de 2015, 12 millions de Français sur 65 millions sont touchés par un handicap. Parmi eux, 80% souffrent d'un handicap invisible. C'est aujourd'hui le combat qui est le mien et mon souhait, alors même que je suis victime de ce que les médecins appellent l'oubli à mesure, est de transmettre.
Peux-tu nous parler de la couverture ?
Sur cette couverture, on voit le titre du roman, Transmission, le titre du théorème du premier tome qui s'appelle le théorème de Théous. Et l'image, c'est le front d'un homme qui est écrasé sur une canne blanche pour aveugle. Le seul point de couleur, c'est le jaune et le rouge de la canne pour aveugle. Le reste, c'est simplement une image noir et blanc qui symbolise la lésion cérébrale. C'est une image que j'ai voulu forte. Je suis allé voir un studio photographique, le studio Pixel de Voiron, et j'ai expliqué ce que j'avais dans les tripes. Et donc, ils ont fait cette photo comme ça, en l'espace de quelques instants. Je voulais avoir une image forte, ce qu'ils ont réussi parfaitement à faire parfaitement, bien au-delà de mes espérances. Parce que quand on regarde cette photo de première de couverture, on se rend compte qu'il se passe toujours quelque chose à l'intérieur.
Pourquoi la science-fiction ?
Quand moi qui suis un enfant du XXe siècle, Ce qui m'a fait rêver, c'est 20 000 lieues sous les mers, le tour du monde en 80 jours. Enfin, voilà quoi. C'est Objectif Lune de Tintin. On a marché sur la Lune avec le capitaine Haddock. Voilà, c'est ça qui a bercé mon enfance. Et aujourd'hui, on a changé de paradigme véritablement et on a envie de percer le mystère de la vie et de copier la vie. Voilà, c'est en ça que ce roman, il est une science-fiction crépusculaire, puisqu'on est déjà dedans.
Quels sont les auteurs et les livres qui t'ont inspiré pour écrire ce manuscrit ?
Les auteurs qui m'ont inspiré, oui, effectivement, c'est Hergé, Jules Verne, je dirais que l'inspiration, c'est vous, au niveau du GEM, qui me l'avez donné. Et c'est les équipes de l'hôpital de Tulin qui m'ont accompagné pendant 4 ans pour que je prenne conscience de ce qui m'était arrivé, pour que je l'accepte, que je le surmonte et que je me rende compte qu'il y avait devant moi un champ des possibles immense. Malgré ma lésion cérébrale.
Où en es-tu avec la publication de ton ouvrage ?
J'ai présenté cet ouvrage à un éditeur qui est, à mon avis, l'éditeur phare des romans autobiographiques. Et donc, le comité de lecture de Robert Laffont a pris connaissance de mon manuscrit et m'a fait un petit retour en m'indiquant qu'il trouvait que, justement, ce n'était pas un roman autobiographique, mais que c'était beaucoup plus un roman de science-fiction, et qu'il vaudrait mieux que je prenne contact avec des éditeurs dont c'est la thématique. Et ils m'ont souhaité bonne chance dans l'aboutissement de mon projet d'édition. Et donc, je veux éditer cet ouvrage à compte d'éditeur et non pas à compte d'auteur. Parce que à compte d'auteur, c'est moi qui vais payer et je n'ai pas du tout suffisamment d'argent à investir pour faire éditer cet ouvrage et voir les ouvrages les exemplaires qui sont sortis finir au pilon s'ils ne sont pas vendus. Voilà. J'ai donc décidé de passer par l'intermédiaire du concours Andy Livre 2018 où je viens de finir de remplir ce matin le dossier de candidature que je vais adresser la semaine qui vient. Et comme ça, je verrai bien si au moins il est sélectionné pour concourir. Et puis, s'il est sélectionné pour concourir, peut-être j'aurai la chance de finir au moins sur la 3e place du podium.
Qu'est-ce que ça t'a fait dans la vie d'écrire ? Qu'est-ce que ça t'apporte ?
Ça m'apporte un bonheur de tous les jours, vraiment. Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame, Agnès Cosma Campaneru, qui est professeur de français, de littérature, de philosophie pour l'éducation nationale et pour une autre école. Cette dame a été touchée, elle aussi, par la lésion cérébrale. Pas directement, parce qu'elle, elle a le cerveau qui marche parfaitement bien, mais son mari, qui a été terrassé par une hémorragie cérébrale. Elle est partie le matin, tout allait bien. Elle est rentrée le soir et malheureusement, il était déjà décédé. Et donc, quelque part, cette dame, elle comprend entre les mots ce que je veux exprimer. Et elle est capable de le retranscrire avec tellement de vérité, tellement de précision dans le choix qu'elle fait des mots que j'ai prononcés dans un sens mal ordonné, brouillon. Elle remet tout ça en forme et pour avoir recueilli les avis de lecture d'un certain nombre de personnes qui ont bien voulu se pencher là-dessus, eh bien, ils sont passés des larmes de rire aux larmes de l'émotion au fil des pages. Et il semblerait, d'après ce que l'on me dit, que on est surpris de tourner une page et de découvrir autre chose à quoi on ne s'attendait pas. Et donc l'avantage d'un roman, c'est justement de pouvoir arrêter de tourner les pages pour repenser à ce qu'on vient de lire avant de rentrer dans autre chose. Je sais que pour nombre d'entre vous, c'est très difficile de lire. Eh bien, j'ai décidé d'enregistrer ce manuscrit sur un CD pour en faire un livre audio et faire en sorte que chacun d'entre vous puisse l'écouter sur le support qui sera le sien, sur son téléphone portable ou sur un manche-disque, et qu'il puisse entendre ce que j'ai envie de transmettre à la vitesse qui conviendra à cet audio-lecteur.
Peux-tu nous lire un extrait ?
D'accord, on en est juste au moment où la transmutation vient d'avoir lieu, et donc Elio se réveille dans son nouveau corps. Toute la soirée, je tournais en rond en observant du coin de l'œil le miroir qu'on avait posé sur un coin de table. À un moment donné, n'y tenant plus, je me saisis de l'objet et, après avoir retenu mon souffle, je le portai vers mon visage. La réaction de Sarah m'avait donné la motivation de le faire. Je voulus m'assurer que mon visage n'avait rien de monstrueux. Je vis un visage harmonieux, aux yeux verts, un menton carré puissant, des cheveux châtains coupés en brosse, un beau visage séduisant qui me mit mal à l'aise. J'aurais presque préféré voir un visage moins beau, comme si cela avait pu atténuer le sentiment de culpabilité inexplicable que je sentais monter en moi. J'étais tout de même rassuré, rien de monstrueux dans mon apparence. Sarah avait sûrement été victime d'un malaise. Je fis la promesse de prendre soin de ce nouvel organisme plein de vie et de jeunesse dont j'avais hérité, et je le remerciais d'avance pour tout ce qu'il allait me permettre d'accomplir.
Dans ton livre, tu parles de tes déboires que tu as eus avec l'administration et des difficultés que tu vis personnellement et que vivent les personnes en situation de handicap pour faire reconnaître le handicap invisible. Alors, Eric, où en es-tu aujourd'hui ?
Ça fait 8 ans que j'ai eu cet accident de moto. Et ça fait 7 ans que je suis dans une bataille juridique dans laquelle, qui n'est pas terminée, et dans laquelle l'administration ne m'aide pas beaucoup, parce que je n'ai toujours pas reçu ma carte de handicap. J'en suis à 4 dossiers qui sont au moins aussi épais que les feuilles de notes de ce roman, qui ont donné lieu à un retour que je vais vous lire. Monsieur Jean-Pierre Barbier, président du département, m'a écrit le 30 janvier 2018 la lettre suivante. Soucieux de pouvoir relayer vos inquiétudes, je suis immédiatement intervenu auprès des services compétents du département afin que votre dossier soit examiné avec une attention toute particulière et dans les meilleurs délais. Sachez que les services me confirment que votre dossier est bien en cours d'instruction. Ces derniers ne manqueront pas de vous tenir prochainement informé de la suite réservée à votre demande. Donc ça fait 4 ans et 3 mois que, malgré l'intervention de Monsieur le Président du département, j'ai toujours pas ma carte d'invalidité, et que pour venir vous voir aujourd'hui, je suis obligé de prendre un train, un bus, et de chaque fois je paie mes billets au prix fort, parce que je ne peux pas bénéficier de la réduction tarifaire qui est accordée aux personnes en situation de handicap.
Tu nous en as déjà touché quelques mots, mais j'aimerais en savoir plus. Et maintenant, c'est quoi la suite de ta vie et de ton aventure littéraire ?
Mon aventure littéraire, elle est tout juste débutante. Je ne suis pas du tout écrivain. Et je prends un plaisir fabuleux tous les mercredis après-midi à passer 3 heures au téléphone avec Agnès, à discuter, raconter, expliquer, faire en sorte de lui transmettre ce que j'ai à lui transmettre pour qu'elle écrive ce que vous venez d'entendre. Donc ça, ça s'appelle passion. Et la passion, c'est quelque chose qui m'a animé toute ma vie. C'est quelque chose que je n'imaginais pas pouvoir retrouver après la lésion cérébrale et que je suis très heureux d'avoir retrouvé. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Maintenant, j'ai écrit ce premier roman d'une série de 17, que j'imagine être une série de 17 parce que on sait ce que c'est, les éditeurs, ils écrivent un premier, s'ils vont bien, ils en éditent un deuxième, s'ils vont bien, un troisième, s'ils ne vont pas, c'est fini. Voilà. Donc, je sais que l'aventure peut s'arrêter comme ça, d'un tome à l'autre. J'aurais commencé à transmettre et je n'aurais pas fini. Donc, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Et bah, j'imagine que, après être passé par des moments de grandes difficultés, va y avoir un revers de médaille, et donc que je vais avoir une chance à faire pâlir d'envie. Je me dis que Transmission va être sélectionnée pour concourir dans le cadre de Andy Livre. Et puis, Andy Livre, ça va me permettre de trouver un éditeur. Et puis, l'éditeur... quand il va sortir le livre, ça va donner envie au producteur de produire un film ou une série télévisée que je vais aller présenter à la télévision puisque j'ai travaillé pendant 17 ans pour France Télévisions. Donc j'imagine que France Télévisions, ils vont dire tiens, voilà l'enfant terrible de Mousseron Dufort qui signe sous le pseudonyme Albéric de Bessac, c'est lui, et on va le recevoir et il va nous expliquer ce qu'il raconte dans ce premier tome de Transmission.
Pourquoi ce nom
Pourquoi ce pseudonyme Albéric de Bessac ? Albéric de Bessac, c'est quelque chose que j'ai inventé tout seul parce que je suis le descendant d'une lignée. Après mon traumatisme et ma lésion cérébrale, je me suis penché sur l'arbre généalogique de ma famille et j'ai réussi à remonter jusqu'en 1804. Là-dedans, j'ai trouvé des Crébessac, des Dufort, etc. Comme ce roman, il fait partie du message que j'ai à transmettre au travers de l'éducation que mes ancêtres m'ont donnée, j'ai trouvé ce nom-là pour faire la symbiose de tout. C'est le moyen que j'ai trouvé de faire transparaître l'égrégore qui existe entre Agnès Cosma-Campaneru et moi. Voilà. Et Agnès Cosma-Campaneru plus Éric Mousseron-Dufort pour signer Transmission, la signature aurait été plus longue que le titre, donc ça ne pouvait pas exister. Quoi.
Après, avec tout ce parcours que tu as vécu, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui aide quelqu'un qui vient d'avoir une lésion ?
Le seul conseil, ce n'est pas un conseil que je vais donner, c'est une prévoyance. C'est de savoir s'entourer. Parce que une famille dont un des membres est touché par la lésion cérébrale, cette famille, au même titre que celui qui est cérébro-lésé, elle est submergée par un tsunami. On n'a pas le temps, pendant la récupération de l'être cérébro-lésé, de se pencher sur les problèmes d'assurance, de banque, de trucs, de machin. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est trouver une association comme l'Association des familles de traumatisés crâniens, vers laquelle j'ai été envoyé par l'hôpital de Tulin. Et la FTC m'a mis en relation avec le GEM, où On m'a dit, bah, vous savez, OGEM, c'est fantastique parce qu'ils font des ateliers de théâtre, de marionnettes. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais les mecs de l'hôpital de Tulin, mais vous êtes tombés sur la tête ou quoi? Moi, je suis chef d'entreprise et j'ai qu'une idée, c'est retourner dans ma boîte pour recontinuer à travailler. Qu'est-ce que vous êtes en train de me parler de marionnettes? Je suis venu au OGEM et puis on a trouvé que je faisais bien le café. Alors, je me suis retrouvé responsable du café. Et puis, un beau jour, on m'a demandé si je voulais être président. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, ben, je vous accompagne, vous, les cérébraux lésés, et vous, les nouveaux arrivants, dans un accueil bienveillant, afin de faire en sorte que vous puissiez venir au OGEM autant de fois que vous avez envie de venir pour voir commencer, goûter, toucher, poser des questions et décider si vous avez envie d'adhérer au OGEM pour apporter au OGEM ce que vous êtes capable d'apporter et recevoir tout ce que les individus cérébraux lésés peuvent vous apporter. Tout à l'heure, Jeanne parlait d'une métaphore au travers de laquelle j'essaie de définir ce qu'est le OGEM. Eh bien, le groupement d'entraide mutuelle des cérébraux lésés, c'est une association de canards boiteux unijambistes qui font en sorte, en s'associant l'un avec l'autre, de faire un canard qui marche droit et sans bouger la tête. Voilà, vous savez comment marche un canard. J'espère que mon image, elle est parlante.